du vent.
Vous l'avez appelé ?
Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, apprendre à regarder autour de soi, à observer les paysages de notre quotidien, à écouter la parole des anciens qui les ont vus évoluer, c'est le principe même du réseau Hip-Hop porté par RFI Planète Radio et l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Hip-Hop pour petites ondes participatives incite des jeunes du monde entier à recueillir dans des capsules vidéo le témoignage des anciens sur leur perception de l'évolution de leur milieu naturel. Ces témoignages sont ensuite mis en perspective par des scientifiques, un moyen de donner la parole à ceux que l'on n'entend jamais et de plonger au cœur de la dégradation quotidienne de notre environnement. Un grand événement est organisé par les coordinateurs du réseau Hip-Hop ce samedi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'occasion de faire le point sur cette belle initiative et de donner la parole à des hip-hoppeurs congolais.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Max Ball.
Bonjour.
Vous avez tout, hein, le t-shirt hip-hop, l'arrière de téléphone hip-hop, vous êtes siglé hip-hop à fond parce voilà. Que voilà, cette semaine, c'est un grand événement à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le réseau hip-hop s'est donné rendez-vous. Alors on va expliquer tout d'abord, hip-hop c'est votre idée, est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe de ce réseau ?
Alors, les petites ondes participatives d'Hip-Hop, c'est un réseau international qui vise à capter le ressenti des populations pour mieux cerner les conséquences des changements globaux, donc qu'ils soient climatiques, détérioration environnementale, ce genre de choses, à travers la parole des anciens, pour deux raisons. La première, c'est parce que ce sont des gens qui ont déjà vécu des choses et qui peuvent nous apporter des solutions, souvent. Ou alors des choses qui ont déjà été testées, puis qui n'ont pas fonctionné. Donc voilà, des expériences. Et la deuxième chose qui était vitale pour moi quand j'ai commencé à travailler sur le concept, c'était de recréer du lien intergénérationnel. Je travaille beaucoup avec les radios locales et je m'aperçois quand même que de plus en plus, il y a un fossé qui se crée avec la nouvelle génération qui est, comme en Europe et en Afrique et partout dans le monde, bien focalisé sur son smart et un peu moins pour aller discuter avec les anciens. Donc voilà, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait rapprocher les uns des autres? Et c'est le témoignage, c'est la confidence. Et du coup, c'est ça, Hip-Hop, c'est dans 41 pays maintenant, c'est des gens qui... c'est des jeunes qui arrivent à passer du temps, à donner du temps aux anciens pour que ces anciens puissent partager, passer un flambeau, passer des impressions.
Et puis ce sont des jeunes qui décident, on va l'entendre dans cette émission aussi, du coup, de regarder leur environnement, d'accepter le regard des autres, qui prennent le temps, parce que, comme vous dites, la tête sur son smartphone, on ne voit pas forcément la rivière polluée à côté de chez soi, les arbres qui ont été coupés, le marché où il y a des déchets à côté. Et là, tout d'un coup, ça incite finalement à chausser les lunettes de la réalité, quoi, à regarder ce qui se passe près de chez soi.
Exactement. C'est en plus, bien souvent, de fait, pour quand on a une approche chronologique, c'est que quand on a 20 ans, on a peut-être pas bien vu la différence, la détérioration. Elle est beaucoup plus étayée, beaucoup plus intéressante si des anciens peuvent apporter des expériences, du ressenti en disant, je me souviens plutôt, quand j'étais plus jeune, là, cette rivière, elle avait beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de poissons, il n'y avait pas de sachets plastiques. Donc voilà, cette expérience, Hip-Hop est plutôt un outil plus qu'un projet. C'est-à-dire que l'idée, c'était de pouvoir, le chaînon manquant un petit peu, de donner à la jeune génération, avec les outils qu'elle adore, en l'occurrence les smart, la possibilité de transmettre comme ça des expériences qui vont se perdre. C'est aussi un projet lié au patrimoine immatériel de l'humanité, parce que dans quelques années, peut-être qu'on regardera derrière et on se dira, on savait pas.
Et là, vous avez décidé donc de travailler avec la République démocratique du Congo, ce pays immense. Ça vous a pas fait peur? Vous êtes dit, allez hop, on va créer un réseau de hip-hoppeurs, on va essayer d'aller collecter un peu cette réalité.
Alors, j'ai un lien particulier avec la RDC, donc c'est un pays que j'aime et j'espère que les Congolais apprécieront ma phrase. Voilà, on travaille en RDC depuis très longtemps, depuis 17 ans maintenant, avec Planète Radio. Mais essentiellement avec des radios de proximité.
Oui, parce que Planète Radio, il faut peut-être expliquer aussi en quelques mots ce que c'est finalement.
Voilà, donc Planète Radio, c'est un petit peu l'antenne de coopération de France Média Monde et particulièrement de RFI à travers le monde, sur les 5 continents. On essaie de mettre en place des structures visant à donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ou à soutenir des actions locales qui visent à à donner une meilleure, peut-être, redevabilité aussi aux gens sur place pour soutenir leurs engagements.
Puis développer des radios locales,
voilà,
de
des
proximité.
Radios de proximité, des radios de service, je préfère le terme de service. Voilà, donc c'est des radios qui... c'est le premier lien avec les communautés locales, quoi, en langue locale, bien souvent.
Donc vous avez un lien fort avec la RDC et vous êtes dit, allez, on va aller chercher les hip-hoppers là-bas.
Voilà, on travaille avec un réseau très important de radios depuis très longtemps aussi. Et voilà, et donc du coup, on s'est dit, ben, il est fort probable qu'au sein de ces radios-là, il y ait des jeunes qui ont peut-être pas encore la connaissance de la radio ou l'envie de faire de la radio. Vous savez, c'est difficile d'avoir envie de faire de la radio maintenant au 21e siècle. Ça fait un peu old school, quoi. On est là, bon, pour faire de la radio, je préfère faire du Facebook. Donc voilà, c'est un peu de les raccrocher en leur disant, vous savez, la radio, vous savez, moi je dirige Planète Radio et je fais de la vidéo. Donc la radio, pour moi, c'est le vecteur.
Mais nous aussi, on fait de la vidéo maintenant. Tout le monde fait de la vidéo.
Et ben voilà, parce que c'est bien de voir aussi avec qui on fait des choses, quoi. Donc moi, je suis content de voir les hip-hoppers, je suis content de voir les anciens que j'ai pas la chance.
Mais c'est
de
pas
connaître.
Un média contre l'autre, tout ça est
Mais
complémentaire.
Pas du tout, exactement. C'est complémentaire et c'est juste une suite logique de l'évolution, à mes yeux, de ce concept de développement. Moi, si je fais de la radio, quand j'ai commencé à faire de la radio, c'était pour faire du développement. Et aujourd'hui encore, ce qui m'intéresse, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens. C'est pas de faire de la radio en tant que telle. C'est un outil. Et là, l'outil s'est imposé à moi et à tout le monde, le smart, donc la vidéo, oui.
En tout cas, ça fédère. On va l'entendre dans cette émission. Nous sommes justement en ligne avec Benjamin Louvois. Bonjour.
Bonjour Anne.
Alors, vous êtes le coordinateur du réseau Hip-Hop pour la RDC, une casquette parmi d'autres. Hein. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dans ce réseau ?
Dans ma famille, c'est une famille qui tourne autour de la préservation de l'environnement parce que notre papa, mon père, il est engagé dans la préservation de la nature et depuis environ 10 ans, il travaille pour la protection de l'Erythrocoelum africanum qui est une plante à chenille. Et après mes études de journalisme, je me suis dit, bon, je peux accompagner l'action du papa. Et qu'est-ce qui pouvait m'aider? Parce que je suis encore un jeune journaliste. Avec hip-hop, je me suis dit, hip-hop peut ramener un peu plus loin, jouer le rôle de la voix des sans-voix pour parler au-dessus de toi. C'est que nous, on peut murmurer en dessous, là. C'est pourquoi... je me suis engagé avec Hip-Hop et Hip-Hop servira des tremplins pour nous aider à faire entendre les ressentis de notre communauté qui est vraiment victime de beaucoup de maux concernant l'environnement.
Max Ball, la voix des sans-voix pour parler au-dessus de toi, on est au bord du jingle là, de la punchline pour Hip-Hop.
Non, je crois qu'il résume mieux que quiconque. Non, je suis très content de... Vous savez, c'est la deuxième joie d'Hip-Hop, c'est que dans le développement d'Hip-Hop, en fait, ne sont intégrés que des hip-hoppers. Et donc, donc Benjamin a participé, comme il vient de le dire, à la première édition du concours mondial Hip-Hop, du Hip-Hop Network.
Qui était en quelle année?
Qui était il y a 2-3 ans, je sais plus.
Et, trois ans.
Et donc là, on a fait un appel à proposition uniquement auprès des hip-hoppers. Moi, je suis extrêmement content de voir que c'est des hip-hoppers qui avaient, encore une fois, de façon extrêmement tout à fait bénévole, fait faire la vidéo. De leur dire, ben voilà, t'as bien bossé, tu mérites, et puis on n'est pas déçus, quoi, il est extraordinaire, bravo Ben, ce que tu fais, c'est génial.
Alors Benjamin, vous avez donc fédéré 47 hip-hoppers de toutes les régions de la RDC pour que chacun produise 4 vidéos, vous les avez accompagnés, vous les avez aidés à définir les angles, les sujets, et alors il y avait 4 thèmes, est-ce que vous pouvez rapidement nous dire quelles étaient les 4 thématiques ?
En fait, les 4 thématiques tournaient premièrement autour des conséquences sociales et humaines des crises sanitaires. La deuxième thématique concernait la pollution ainsi que ses conséquences sur la qualité de vie. La troisième thématique, la sécurité alimentaire et ses impacts sur l'augmentation des produits importés. Et enfin, on a eu à parler de la déforestation et la dégradation de la biodiversité.
Merci beaucoup Benjamin pour votre témoignage et donc toutes ces vidéos sont à voir sur la page Facebook de Hip Hop Max Ball.
Alors oui, sur le Facebook d'Hip Hop Network et sur le site Hip Hop Network. D'ailleurs, il y aura une version spéciale RDC qui sortira à la fin du mois parce que là, on est recouvert au bon sens du terme de capsules. Vous savez ce qu'il vient de dire, c'est... Enfin, moi, je connais bien le Congo pour y travailler depuis bien longtemps. Et ben, le cas de la mangrove à Monda, j'étais pas au courant. Donc, je suis extrêmement content qu'on soit ici à Paris, en train de parler de la mangrove de Monda. Et sans hip-hop, c'était pas possible, ça. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'il y a des les derniers maillons de la chaîne qui sont au bout sur le terrain et qui vont vous dire, regardez, la réalité, elle est là. L'échec, il est là. Donc, le changement doit commencer aussi par là. Et c'était ça, hip-hop, le concept. Et donc, je suis bien content que ça se passe comme ça.
Ouais, une énergie incroyable que l'on voit à travers toutes ces vidéos. Et qu'est-ce qui va se passer samedi à Kinshasa, alors?
Alors, samedi, on clôture un gros projet qui s'appelle RD2C, Réseau Décentralisé Citoyen au Congo. Voilà, que c'est un projet de production radio et qui intègre depuis peu hip-hop. Donc, il y a la production radio, la production vidéo. L'idée étant de pouvoir avoir une vision un petit peu plus globale. La RDC étant un tellement grand pays, il est énormissime. Donc, du coup, de savoir un peu les gens du Sud, les gens du Nord, est-ce qu'ils sont confrontés aux mêmes réalités, comment ils les perçoivent, ces réalités, quels sont leurs ressentis. Donc, on va faire venir des jeunes, et notamment des jeunes hip-hoppers de toutes les provinces du pays. Il y aura, alors, ça sera aussi festif, parce que chez Planète Radio, on tient à ce que ce soit toujours festif. Donc, il y aura du culturel, il y aura de l'artistique, il y aura de l'événement, il y aura de la projection vidéo. Grand Corps Malade, malheureusement, ne sera pas là. Il était venu la dernière fois, mais là, voilà, ça fait un peu loin, puis dans le contexte sanitaire, c'est difficile. Mais il y aura un superbe événement artistique avec de danse contemporaine.
C'est où et c'est à quelle heure?
Alors, c'est à Kinshasa, au Centre culturel Mont des Arts, samedi et dimanche.
Alors, pour se mettre dans l'ambiance, voici un Congolais, Jupiter Bokonji et son groupe Okwes Nakozonga dans C'est pas du vent sur RFI.
Ich kann nicht, was ich kann machen. Na tamboli, di tambola, tambola. Il est temps pour moi de rencontrer mes ancêtres. Pour que ma famille in Africa, in Africa, in Africa. Bein mir, bein home. Nakozonga, Nakozonga. Ich weiß nicht, wann ich kann dir sagen. Na tamboli, di tambola, tambola, na mokilio. Il est temps pour moi de rencontrer mes ancêtres. Pour que ma famille in Africa. Ma famille, mein Kinder, mein Großvater, Nakozonga, Nakozonga. Tambola, tambola, namo filio. Il est temps pour moi de raconter mes ancêtres. Pour que ma famille in Africa. Pour que mein Großvater in Africa. Pour que mein Vorvater in Africa. Jetzt ist Mutusa again. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Tschüss.
Nakozonga du Congolais Jupiter Bokonji et son groupe Okwes dans C'est pas du vent sur RFI.
Au revoir. Adios.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Nous parlons du réseau hip-hop aujourd'hui dans C'est pas du vent avec son fondateur et coordinateur Max Ball. Hip-hop pour petites ondes participatives qui incite des jeunes du monde entier à recueillir dans des capsules vidéo le témoignage des anciens sur leur perception de l'évolution de leur environnement. Ce samedi, hip-hop organise un événement à Kinshasa car depuis des mois, 46 hip-hoppers tournent des vidéos dans toutes les régions du pays. Je vous propose de découvrir sans l'image évidemment, mais le son de la vidéo tournée par Jonathan Imba dans l'un des marchés de Kisangani, une ville de près de 2 millions d'habitants dans la partie plutôt nord du pays.
On m'appelle Antoinette Bossia. Nous habitons dans cette communauté depuis 2000. Nous avions trouvé cet endroit plein de déchets. Les matières fécales venant de partout finissaient dans l'eau de la rivière Djoubé. Mon mari a acheté une brouette qui nous a permis de transporter toutes les ordures du marché, puis de remonter le niveau du sol. Il y a aussi M. Pharaon, le gérant du marché, qui a aidé en amenant des cailloux sur la chaussée. Par contre, les autorités administratives ne font absolument rien pour réhabiliter ou même entretenir cette route. La charge d'entretien ne revient qu'à mon mari et à quelques voisins. Nous vivons dans la crainte du paludisme, de la typhoïde à cause des eaux stagnantes. Vu que le marché est aussi notre lieu d'habitation, nous sommes en permanence à côté de ces ordures.
Et sur la même thématique de l'impact des déchets, une autre vidéo tournée par Expedi Kalou à Bukavu, un autre hip-hopper. Donc une vidéo tournée à Bukavu, la capitale du Sud Kivu, située au bord du lac Kivu.
Je m'appelle Bunduku Konecho et je suis pêcheur. Je suis né en 1954 à Mulambula. À cette époque, il n'y avait pas d'insalubrité ici. Il y avait des poubelles publiques. Et même ici au marché, il n'y avait pas de saleté. Depuis peu, les poubelles et les dépotoirs polluent l'environnement. L'insalubrité est causée d'un côté par les déchets, comme ceux des vendeurs de légumes sur le marché, mais aussi par une usine de fabrication d'alcool qui amène d'autres déchets. Et les réservoirs de cette usine apportent une odeur nauséabonde. Les eaux usées de cette société sont traitées juste à côté du marché. D'ailleurs, cela favorise le paludisme ou des céphalées même qui entraînent la mort. Il y a aussi une société de fabrication de quinine qui déverse ses déchets dans le lac. Et ces déchets pharmaceutiques tuent les poissons. Pour améliorer la situation, la mairie doit assainir le site en dégageant tous ces déchets. C'est pour le bien de la population. Il faudrait aussi un dispensaire pour qu'on puisse avoir accès aux médicaments, parce que les enfants et les vieillards tombent malades. Et nous pensons que c'est à cause de ces déchets. En tant qu'habitant de cette ville, je demande aussi à la population de s'adonner aux travaux communautaires afin d'éviter les maladies.
Max Ball, les hip-hoppers qui dénoncent l'insalubrité à travers ces vidéos que l'on vient d'entendre, hein, puisqu'on fait de la radio, ont beaucoup de mérite. Il faut le rappeler quand même que cette zone, l'est de la République du Congo, c'est une zone qui vit dans un contexte de guerre civile depuis des années. Selon l'ONU, il y a près de 1300 civils qui auraient été tués dans divers conflits entre des groupes armés ou des forces de sécurité au cours des derniers mois. Ça a dû largement augmenter, même, hein, ce sont des estimations de l'ONU, mais ça doit être beaucoup plus. Et dans ce contexte, c'est vrai que parler de protection de l'environnement, ça peut sembler un peu dérisoire.
C'est-à-dire que la définition de l'environnement, elle est liée au pays dans lequel on réside. C'est-à-dire que nous, on a une vision assez restreinte de l'environnement parce qu'elle touche à notre confort. Là-bas, on ne parle pas de confort, on parle de survie. Donc, si on peut pas aller, s'il n'y a plus de poissons dans le lac, on mange plus. C'est pas une question de, c'est pas un agrément. Donc voilà, non, c'était important pour nous de Et ça, vous savez, ce type d'information, parce que, enfin, pas d'information, de ressenti, de cri, de témoignage, de confession, on ne peut l'avoir que si on est sur le terrain, si moi j'y vais, ou si vous, vous y allez en tant que journaliste, bien entendu, bien souvent, on vous répond ce que vous avez envie d'entendre. Donc là, les phrases, et c'est toute la magie du réseau hip-hop, ce sont souvent des gens qui se connaissent et qui se montent moins, parce qu'ils se disent, bah, si je le dis pas à toi, à qui je vais le dire, quoi. Voilà, et c'est ça qui est... Vous savez, la composante humaine dans hip-hop, elle est majeure. Le projet a été conçu à partir de ça. On a tricoté autour de l'humain. On s'est dit, dans cette problématique mondiale qui est l'avenir de la planète, si on met pas ça en exergue, si on commence pas par tricoter autour de l'humain, on fera fausse route. Donc on est parti à partir de ça, et donc du coup on n'a pas d'ambition de faire ni de l'info, ni de l'actu, surtout pas de l'actu, c'est du ressenti, c'est du si tu étais assis à côté de moi, tu ressentirais ça. C'est un peu ça l'idée.
Mais du coup ça donne les vrais témoignages que l'on vient d'entendre, et puis des jeunes qui se mobilisent, hein, comme vous, Pascal Baoundé, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment.
Alors vous vivez à Uvira. Uvira, c'est une ville de la province du Sud qui vous... Comment est-ce que vous avez eu envie, vous, dans ce contexte qu'on évoquait, de devenir hip-hopper, de faire des vidéos comme ça sur la dégradation de l'environnement? Qu'est-ce qui vous a motivé?
Bon, Anne, étant d'abord jeune et soucieux de voir un changement politique sur tous les plans, dans l'environnement, je pense que devenir hip-hopper, c'est pour moi le moyen pour aider la planète aussi à atteindre mes objectifs quand même. Quand les gens se confient à moi pour exprimer leurs ressentis, témoigner ce qu'ils ont vécu, vous voyez combien des fois, même sur le plan social, hip-hop, sur le plan professionnel, augmente quelque chose dans ma vie. Et voilà, avec hip-hop, devenir aussi moi hip-hopper, je pense que c'est un chemin que je dois suivre pour porter mes voix de ces personnes qui sont victimes de ces changements environnementaux et voir en quelque sorte chercher pour une piste de solution.
Alors justement, je vous propose d'écouter le son de votre vidéo que les auditeurs pourront voir en image sur la page Facebook du réseau hip-hop, et on en parle après.
Je suis médecin à l'hôpital général. Les bébés font leurs besoins dans les couches culottes. Il ne faut pas jeter cette couche n'importe où, parce que cette simple couche peut amener des maladies comme le choléra, la fièvre typhoïde ou des infections. On retrouve des couches bébés qui ont été jetées dans le lac ou dans la rue. En plus de la santé, cela a un impact négatif sur les poissons du lac. Et par conséquent, nous nous retrouvons avec des problèmes d'alimentation. C'est triste, mais pour la population, la décharge, c'est le lac ou la rivière Mulongwe. Si tout le monde avait un incinérateur, on pourrait y jeter tous les déchets non dégradables. Je le conseille vraiment aux gens pour sauver notre environnement.
Cette problématique des déchets, c'est un sujet que l'on retrouve dans toutes les grandes villes. Bonjour Gauthier Daubigny.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en écologie de la santé, spécialisé dans les zoonoses, ces maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme et inversement. C'est un sujet d'actualité évidemment, puisque la Covid-19 est une zoonose. Alors vous ne travaillez pas particulièrement sur la Covid-19, mais sur la transmission des maladies par les petits rongeurs en milieu urbain, et vous avez notamment étudié ce phénomène dans des zones d'agriculture urbaine à Niamey au Niger et dans le quartier de Lodji, un quartier précaire à Cotonou, au Bénin. Alors, premier constat, Gauthier Daubigny, ce que dénonce Pascal Baoundé dans sa vidéo et ce qu'ont dénoncé de nombreux hip-hoppers, cette accumulation des déchets sauvages, malheureusement, ce n'est pas un problème qui va diminuer.
Bah oui, non, tout à fait. C'est assez remarquable de voir à travers ces vidéos cette expression populaire qui converge et qui montre une chose qui est bien connue, mais qui malheureusement va crescendo. C'est l'accumulation un peu incontrôlée de déchets qui pose des problèmes d'environnement et de santé. Le problème des déchets en Afrique risque probablement d'augmenter, puisque le continent africain connaît une démographie explosive et qui s'accompagne d'une urbanisation explosive surtout. Donc les villes produisent énormément de déchets. Et d'autant que cette urbanisation se fait beaucoup dans des zones assez insalubres. Pour vous donner une idée, en Afrique, en 2010, il y avait à peu près 200 millions de personnes qui vivaient dans des bidonvilles. On s'attend à trois fois plus vers 2050. Et cette urbanisation, cette démographie accélérée s'accompagne évidemment d'une consommation croissante. On s'attend à peu près à 3 fois plus de déchets en Afrique dans les 2-3 décennies qui arrivent. Donc c'est évidemment un problème majeur partout sur le continent.
C'est évoqué dans les vidéos, hein, ces déchets sauvages ont de nombreuses conséquences sanitaires. Alors quelles sont les grandes familles, j'ai envie de dire ?
D'abord, ça peut les dépotoirs, les décharges géantes à ciel ouvert peuvent être à l'origine de drames, hein, très mécaniques. Hein, par exemple, l'éboulement d'un grand dépotoir à Addis Abeba avait fait plus de 100 morts en 2017. Vous avez parfois des explosions, comme ça a été le cas dans une décharge sauvage à 40 km de Cotonou, qui avait fait 16 morts en 2016. Mais de façon plus massive encore, se posent des problèmes de pollution, hein, de l'air, bien sûr, lors de la combustion des déchets qu'on brûle régulièrement pour essayer d'en réduire la masse, mais aussi beaucoup des nappes phréatiques. Donc, si vous voulez, ces dépotoirs, évidemment, sont à l'origine de pollution chimique, type métaux lourds et autres, dans les nappes phréatiques dans lesquelles les puits se servent, hein, sont creusés. Alors, ces dépotoirs sont responsables d'une grande insalubrité, hein, qui favorise la prolifération de tas de microbes en tout genre, des vers, des bactéries, des virus, qui sont responsables de nombreuses maladies. Alors, on entend très bien, hein, sur les vidéos les gens qui évoquent le paludisme, les épidémies de choléra associées à l'insalubrité autour des dépotoirs, des choses comme ça. Ces dépotoirs attirent aussi des réservoirs de pathogènes comme les rongeurs, les rats en l'occurrence. Hein. Et puis, alors, à tout ça s'ajoutent des choses qui sont peut-être un peu moins documentées. Probablement que ces dépotoirs sont aussi dans les pollutions possibles. J'imagine qu'on pourrait lister les perturbateurs endocriniens, par exemple, dont on parle beaucoup dans les pays du Nord, mais moins en Afrique. Mais il n'y a pas de raison que malheureusement, ils y échappent.
Et dans la vidéo de Pascal Baoundé tournée à Ouvira, près du lac Tanganyika, on voit une couche au milieu des déchets. Et ça a attiré votre attention.
C'est le problème donc des antibiotiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un gros problème de santé se pose de nos jours partout sur la planète. Il est un peu moins bien étudié en Afrique, mais ça vient. C'est le problème des antibiorésistances. C'est-à-dire qu'en fait, en épandant des antibiotiques qui sont des antibactériens dans la nature, eh bien, ces bactéries de l'environnement deviennent en fait résistantes à ce qui nous sert de médicaments. Donc, cette couche, par exemple, peut contenir à la fois des bactéries pathogènes pour l'homme, si le bébé en question a, par exemple, une diarrhée aiguë, et s'il est traité avec des antibiotiques, il peut y avoir des résidus antibiotiques. Cette couche qui finit dans le dépotoir, puis la rivière, puis dans le lac, pourrait contribuer à répandre des résistances aux antibiotiques. Et tant et si bien que ce genre de diarrhée, après, par exemple, n'est plus traitable par les antibiotiques habituels.
Et alors, toutes les vidéos dénoncent l'absence des pouvoirs publics. C'est un phénomène que vous constatez largement aussi, parce que collecter les déchets, ça coûte cher et ça demande une importante organisation. On a fait de nombreux sujets sur ce thème dans C'est pas du vent. C'est vraiment quelque chose qui ressort de tous les témoignages. Hein.
Oui, c'est assez spectaculaire à quel point, encore une fois, tout cela converge. Hein. J'imagine, alors je ne suis pas spécialiste des déchets, mais enfin, ça rappelle beaucoup les terrains sur lesquels on travaille, enfin, les terrains sur lesquels on travaille beaucoup. J'imagine qu'il y a une croissance démographique et un problème de pollution, de rejet de déchets qui est tel que ça dépasse la puissance publique, notamment en Afrique où les problèmes à régler sont quand même nombreux. C'est aussi vrai dans les pays du Nord, on a quand même beaucoup de mal nous aussi avec nos déchets, il faut toute une technicité et beaucoup de moyens qui sont encore moins disponibles dans les pays en voie de développement. Donc oui, souvent on reproche une absence de la puissance publique, oui, c'est vrai. Ceci dit, il y a quand même des choses qui sont faites, il y a des stratégies qui sont testées, alors pour l'instant force est de constater que c'est pas toujours performant. Il y a quand même des pays...
Oui, Gauthier Daubigny, est-ce qu'il y a des initiatives communautaire, du coup, qui pourrait donner un peu d'espoir quand même dans ce contexte.
Alors oui, c'est un problème tellement prégnant au quotidien chez les gens qu'il y a des initiatives nombreuses. Il y a beaucoup d'ONG, et puis ça s'est transformé ensuite en start-up, qui essayent par exemple de recycler les déchets, notamment les déchets plastiques, pour en faire des briques, des trottoirs, des routes. Il y a même, il me semble, un projet entre les ministères de l'assainissement et de l'éducation et il me semble que c'était l'UNICEF. En Côte d'Ivoire, ils ont fait des classes d'école à partir de briques en plastique recyclées. Je me souviens, moi, du quartier de l'Adji que vous avez évoqué tout à l'heure à Cotonou, où les gens avaient fait appel au sacré, en fait, en installant un fétiche dans un dépotoir pour convaincre les gens de ne plus y déposer leurs déchets. Et puis j'ai rencontré énormément de gens dans ces quartiers, associations, professeurs d'école, qui tenait absolument à sensibiliser les plus jeunes, donc qui pensait que le challenge était là, c'était sensibiliser les jeunes générations qui, espérons, le feront mieux que nous. Mais ça, c'est difficile à généraliser s'il n'y a pas la puissance publique derrière quand même pour pour étendre le processus de sensibilisation à toute la génération qui arrive.
Merci beaucoup Gauthier Domini pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes écologue de la santé à l'IRD, l'Institut de la Recherche pour le Développement. Max Ball, on est à fond là dans Hip Hop. Hein.
Ah bah oui, je crois que l'enchaînement de tous ces commentaires, bah la synthèse, c'est Hip Hop.
C'est-à-dire le témoignage des hip-hoppeurs mis en perspective par un scientifique.
C'est-à-dire que je pense que ce type de réponse claire et facilement assimilable pour tout le monde, elle vient aussi du fait que le témoignage était aussi clair et assimilable par tout le monde. Vous savez, quand on a commencé à travailler avec des centres de recherche, et en l'occurrence l'IRD, les premiers temps, les débats étaient compliqués parce que les connaissances, les compétences, l'expérience ne sont pas les mêmes. Les terminologies, le vocabulaire n'est pas le même. Et donc, le fait hip-hop est arrive un petit peu comme une espèce de modulateur qui arrive là et qui permet à des gens très compétents de pouvoir parler avec des gens qui le sont moins et peut-être on se comprendra mieux.
Et puis ça aide à comprendre le monde. Allez, une pause musicale en compagnie de Fally Ipupa, non à la guerre, non c'est pas du vent sur RFI. Non à la guerre, non c'est pas du vent sur RFI.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Et nous parlons du réseau hip-hop aujourd'hui dans C'est pas du vent avec son coordinateur Max Ball, hip-hop pour petites ondes participatives qui incite, vous l'avez compris, des jeunes du monde entier à recueillir dans des capsules vidéo le témoignage des anciens sur leur perception de l'évolution de leur environnement. Samedi, hip-hop organise un grand événement à Kinshasa. On vous dira tout à la fin de l'émission si vous voulez y assister. Et puis donc depuis des mois, il y a 46 hip-hop TikTokers qui tournent des vidéos dans toutes les régions du pays, notamment dans le nord-est, une région où les combats ont malheureusement repris en début d'année, notamment près de la ville de Beni, qui est située à proximité du parc national des Virunga, que l'on salue au passage. Des combats qui créent de l'insécurité alimentaire, comme le démontre cette vidéo tournée par le hip-hopper Aboubakar Jingo Kalunga.
Moi, c'est Boniface Saïdi Kakoulé. Je suis enseignant.
À l'époque de nos vieux, il y avait assez de terre pour tout le monde. Quand une personne voulait cultiver, elle avait toujours de bons rendements. La récolte était satisfaisante. Donc, pas de problème pour nourrir sa famille. Tout le monde avait cette possibilité d'avoir un bout de terre pour cultiver. Aujourd'hui, c'est difficile d'accéder à nos champs. À cause de l'insécurité, on ne sait plus où cultiver. À l'époque, il arrivait même qu'on exporte notre production dans des pays voisins. Mais aujourd'hui, avec l'insécurité, nous commençons à importer la nourriture. Et ceci entraîne un exode rural vers les provinces voisines de l'Ituru ou de Chopo, à la recherche de terres à cultiver. Et puis, avec la pandémie de coronavirus, le prix de la nourriture s'est enflammé. C'est la faute aux dirigeants du pays. Ça rend vraiment en colère parce que notre pays est pris en otage. Nous sommes inquiets pour notre vie et celle de nos enfants. Car nous sommes en train de perdre notre terre. Le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Les autorités doivent nous aider à finir cette guerre pour que nous restions dans nos champs. Parce qu'actuellement, nous sommes esclaves dans notre propre pays.
Allez, on descend plus au sud, à Goma, où l'insécurité alimentaire fait aussi flamber les prix, comme le dénonce Daniel Makassi, hip-hopper de son état.
Je suis Marceline Ngoy. Je fabrique la boisson traditionnelle qu'on appelle le lutuku. Avant, le maïs était à un bon prix. À l'époque, on utilisait une partie du maïs pour faire des boissons, et une autre partie pour nourrir la famille. Le maïs venait de Rutshuru et de Masisi. Ce n'était pas le même prix qu'aujourd'hui. La guerre a fait grimper les prix sur le marché et puis les voyages sont dangereux. Ça explique l'exode rural. Les jeunes viennent en ville. Le risque, c'est de manquer de quoi manger. Il faut faciliter le travail et que cessent les tueries sur la route. Moi, je n'ai pas mon propre champ. Ce sont des agriculteurs qui nous apportent des denrées en ville. Et grâce à ces produits, nous faisons de petits métiers. Mais le grand problème, c'est le prix du transport des denrées agricoles. Le prix monte énormément. Avant, une mesure de maïs coûtait 250 francs. Aujourd'hui, il faut débourser 800 francs.
Bonjour Daniel Makassi.
Bonjour Anne.
C'est vous qui avez tourné cette vidéo que l'on vient d'entendre. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce sujet sur la hausse du prix de cette boisson traditionnelle donc à base de maïs qui s'appelle le lutuku ?
Effectivement, Anne, l'idée est venue d'une observation. Nous avons trouvé que le maïs est très consommé ici chez nous à Goma, dans la province du Nord Kivu. Et il y a aussi des territoires qui vivent grâce à la culture du maïs. Là, c'est en l'occurrence les territoires des Rutshuru. Et actuellement, avec tout ce qui est aigreur, tout ce qui est mauvaise qualité des infrastructures routières, il arrive que les prix du maïs augmentent sur le marché. J'observais à un certain moment une femme qui fabrique le lutuku, qui est une boisson traditionnelle, très consommée ici chez nous à Goma par certaines personnes. Et cette femme, en l'approchant, elle m'a montré que son commerce est actuellement perturbé du fait que l'insécurité persiste dans les zones où le maïs est beaucoup plus cultivé, un impact direct sur les prix de mesure de maïs dans le marché.
Alors, on l'a bien compris à travers votre vidéo. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Daniel Makassi, de devenir hip-hopper, de faire des vidéos comme ça pour montrer la réalité de votre, du quotidien, de votre environnement?
C'est parce que d'abord, vers décembre 2018, je suivais un MOOC en ligne. Et d'ailleurs que je n'avais pas su terminer parce que j'avais des soucis de connexion, mais qui m'avait motivé à utiliser mon téléphone pour produire des petites vidéos. J'étais tellement inquiet de voir que plusieurs jeunes dans mon entourage avaient des smartphones, des téléphones d'élite, mais qui ne faisaient que bavarder sur des réseaux sociaux. Ça dure beaucoup de choses autour de leur communauté, autour des sujets d'actualité. Et moi, en visitant les sites de Hip Hop Network, j'ai pris connaissance des actions d'autres jeunes en Océanie, dans la Nouvelle-Calédonie, et j'ai trouvé que c'était intéressant de parler aussi des vécus de nos communautés affectées par les réchauffements climatiques. Et si dernièrement, d'ailleurs, à Sake, on a constaté une rivière qui a débordé, il y a environ 11 personnes qui ont perdu la vie. Donc, c'est autant de messages qui nous ont motivés d'emboîter les pas d'autres hip-hopères.
Alors, dans le contexte de guerre civile dans lequel vous vivez, on en parlait avec Max Ball tout à l'heure, on imagine bien que la préservation de l'environnement n'est certainement pas une priorité.
Pour la population, dire que la préservation de l'environnement, c'est une priorité, je ne saurais pas le dire parce que, par exemple, ici chez nous, à Goma, nous observons une activité communautaire hebdomadaire que nous appelons Salongo, qui est une activité d'assainissement communautaire. Mais cette activité ne se fait pas très bien. Il y a certaines personnes qui restent à la maison sans rien faire, sans balayer leur entourage, leur environnement. Et la question, c'est autour des sanctions. Plus il n'y a pas de mesures pour sanctionner ceux qui détruisent l'environnement, ceux qui polluent, ceux qui jettent des déchets vaille que vaille, c'est le fait que la préservation de l'environnement ne soit plus une priorité pour certaines communautés. Et les dangers maintenant persistent parce que les gens continuent d'un moment à autre à être victimes des méfaits de leur pollution, de tout ce qui n'a pas été bien fait.
D'accord, donc vous êtes carrément pour des sanctions. Alors vous avez choisi de mettre en avant un autre sujet qui sévit à Goma, notamment dans le quartier du Lac Vert. Il s'agit du gaz mazoukou, des nappes de gaz carbonique qui tuent. On écoute votre vidéo et on en reparle.
Je suis Dedesi Mitima, chef du quartier du Lac Vert. Notre population et notre magnifique environnement montagneux sont menacés par le gaz mazoukou. Des maisons sont construites à côté des poches de gaz. Le matin et le soir, c'est très dangereux. Nos vies sont menacées. Les volcanologues nous disent que ce gaz détruit la vie. Mazoukou, c'est notre façon d'appeler le gaz CO2 en langue swahili. Mazoukou, c'est un danger de mort dans un paysage magnifique. Nous faisons des alertes à la radio et prévenons les visiteurs dans le quartier du Lac Vert, car on ne se promène pas n'importe comment ici. En l'absence de pancartes qui indiquent le danger, on peut mourir asphyxié. Le pire, c'est que c'est la population qui enlevait les pancartes. Les uns vendaient le métal, quand les autres utilisaient les planches comme bois de chauffe. Quand il y avait les pancartes, il y avait beaucoup moins de morts. Mais maintenant, si un soulard passe à ces endroits moins de 5 minutes, il meurt illico.
Eh oui, illico, Daniel Makassi, ça plaisante pas, hein, ces nappes de gaz carbonique. Vous avez découvert ce phénomène en cherchant un sujet pour le réseau hip-hop ou vous le connaissiez avant?
Non, je connaissais les problèmes de mazoukou depuis que je suis enfant, parce qu'on se souvient qu'il y a même en 2013 des personnes qui sont décédées. Et à cette période, c'était des déplacés de guerre qui étaient dans un site qui se trouvait dans les vers Bouimba. Et ces personnes-là étaient en train de se promener et qui sont tombées dans un site à concentration du gaz mazoukou. Le gaz mazoukou qui vient du Kinyarwanda, qui signifie souffle du diable ou vent diabolique. On comprend les termes, comment
c'est tellement dur lorsqu'on essaie un peu d'attribuer cela à ces espaces en concentration du gaz. Et je n'ai pas fait aborder ce sujet tout simplement à cause de ces programmes hip-hop, mais c'est parce que j'ai vu aussi à Goma, et des fois je visite les quartiers Lac Vert pour voir des amis ou soit pour aller visiter les Lacs Verts. Parce que dans les quartiers Lac Vert, il y a les trois lacs de la ville de Goma, c'est-à-dire les lacs Kivu, les lacs Verts et les lacs Noirs. C'est une zone où plusieurs personnes veulent aller visiter et c'est un danger. Et d'ailleurs, entre avril et juillet 2020, trois personnes sont décédées, un homme et une femme au mois d'avril, un jeune garçon au mois de juillet qui voulait aller se soulager dans la brousse. On l'a trouvé déjà mort et même un volcanologue que nous avons approché nous a montré qu'il était même difficile de faire les petits élevages parce qu'une chèvre peut quitter la maison et aller dans la brousse et peut-être se trouver dans une zone où il y a une forte concentration de COD. Parce que selon les recherches des volcanologues, une concentration de 10 à 15% du COD peut être déjà dangereuse pour les hommes. Pendant qu'avec les mazoukous, on arrive à trouver des zones où la concentration du COD atteint même 100%. Il y a des quartiers à Goma où on trouve des sites avec une concentration même de 70, 80, 50%.
Et voilà un phénomène que vous avez révélé grâce à votre vidéo hip-hop. Merci beaucoup Daniel Makassi pour votre témoignage. Max Ball, on en apprend énormément avec tous ces hip-hoppeurs dans cette émission. C'est vaste, c'est riche. C'était vraiment votre objectif tout ça.
Non, mais je suis très content, je suis très fier de voir que bah, quand j'entends ça, je suis content qu'on ait eu envie de le faire, qu'on ait eu les moyens de le faire, enfin qu'on ait trouvé les moyens de le faire, parce que c'est pas facile de lancer des projets comme ça. Bah, il faut savoir que maintenant, au Congo, on dépasse les 200, 250 hip-hoppeurs. Donc là, il y en a 46 qui étaient rattachés à un projet en cours, donc qui sera clôturé à la fin du mois. Et puis on va redémarrer sur d'autres avec d'autres hip-hoppeurs. Mais voilà, moi, quand j'entends des choses comme ça, je suis très content de voir la jeunesse congolaise s'exprimer comme elle vient de le faire, avec du sens, avec de la pertinence, avec du savoir, avec de l'engagement. Je suis très content de voir qu'en fait, cette vision qu'on a souvent restrictive et un petit peu pyramidale quand on regarde ça depuis l'Europe sur l'Afrique, ben non, en Afrique, les gens savent des choses, ils ont beaucoup de choses à transmettre. Et hip-hop, c'est un petit peu ce lien qui permet aussi à tous les chercheurs du monde et à toute la population mondiale de se nourrir d'expériences des autres.
Ce n'est pas dans cette émission qu'on a besoin de le découvrir, mais en effet, ça aide encore plus à donner la parole, à entendre toutes ces sensibilités et cette intelligence de l'observation du quotidien. Alors Max Ball, on donne rendez-vous aux auditeurs dimanche à Kinshasa.
Voilà, dimanche à partir de 13h au Centre culturel Mont des Arts à Kinshasa. Donc il y aura des ateliers hip-hop, des petites même sessions de formation pour les jeunes intéressés pour devenir des hip-hoppeurs. Voilà, donc tout le staff sera là, on aura des hip-hoppeurs de tout le pays. Des 11 provinces historiques, il y aura nos partenaires, Gaël, le seigneur Gaël sera là, et puis modestement moi aussi, et puis Florence Maurice aussi, il y aura tous les gens qui, voilà, tous les amoureux d'hip-hop seront là.
Voilà, donc vous retrouverez toutes les coordonnées du réseau hip-hop sur la page internet de C'est pas du vent. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, et en effet, Max me dit de préciser, hip-hop ça s'écrit E-P-O-P, voilà, si vous le voulez chercher sur internet. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous bien sûr pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.